Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation.
Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon mercredi, Marianne Paquette au micro pour cette émission de C'est bon pour la santé. Vous êtes sur Canal M. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de diabète. On en a parlé souvent ici, notamment parce qu'il faut s'y pencher. C'est un problème de santé publique, maladie chronique qui touche de plus en plus de personnes et ce, partout dans le monde. Par ailleurs, j'ai pu constater qu'il y a moins de chiffres par rapport aux enfants. On ne sait pas trop, du moins ici au Canada, il n'y a pas eu de vaste étude à savoir combien d'enfants sont touchés par la maladie. Toutefois, ce que l'on sait, c'est que la maladie, notamment diabète de type 2, s'est accrue mondialement dans la population qui touche les enfants. Donc, oui, encore là, s'y intéresser parce que ça touche nos petits qui grandiront avec cette maladie chronique. Il y a une application mobile éducative, la première, ici au Québec, au Canada, mais dans le monde, parce que c'est une application française. Ça s'appelle Glucosor et ça sert à aider les enfants âgés de 8 à 12 ans à mieux comprendre leur maladie à travers toutes sortes de paramètres. En deuxième partie d'émission, Nordine Gachi, directeur créatif et technique cofondateur chez Dowino, sera là pour nous en parler davantage. Également, l'avancement des connaissances médicales, scientifiques aussi, ça sert à bien des gens, notamment des gens qui vivent avec différentes limitations fonctionnelles, et ça sert à offrir une plus grande gamme de techniques, d'approches, de thérapies. On a accès à tout ça, et parmi celles-ci, ben, l'équitation thérapeutique, qui a de nombreux bienfaits pour des gens qui vivent avec différents handicaps et où le cheval devient carrément un membre de l'équipe de thérapie, un membre de l'équipe de soignants. J'en parle à l'instant avec Diane Plante, instructrice et directrice générale de la Fondation Chevalerie Passion. Diane Plante, bonjour.
Bonjour, Mme Paquette.
L'équitation thérapeutique, ça me semble être un terme qui est plutôt large et qui sert à désigner différentes approches. Est-ce que c'est bien ça?
Tout à fait. Alors, l'équitation thérapeutique, c'est un terme générique, inclut toute forme d'activité équestre qui sont préparées à l'intention de personnes qui présentent des différences, donc des déficiences autant physiques, intellectuelles que socio-affectives.
Mm-hmm. Mais on va au-delà de la zoothérapie lorsqu'on parle d'équitation thérapeutique, ou ça peut entrer également, le terme zoothérapie peut entrer dans ce qu'est l'équitation thérapeutique?
Bien, il est certain que la zoothérapie fait référence à une thérapie en utilisant un animal. Donc oui, je dirais que ça se classe dans cette catégorie-là. Mais au-delà de ça, l'équitation thérapeutique se divise en quelques catégories, notamment l'hypothérapie, où on va utiliser le cheval comme un stratège de réadaptation en se basant sur un mouvement qui est tridimensionnel, donc qui est très, très similaire à celui de l'humain, et en utilisant ce mouvement-là pour stimuler le tonus musculaire, entre autres. Mm-hmm. Donc, cette forme de thérapie-là se prodige avec l'aide des instructeurs d'équitation thérapeutique, mais également des professionnels de la santé comme les ergothérapeutes, les physiothérapeutes. Et on a ce que nous, on appelle à la Fondation la thérapie assistée. Alors, c'est-à-dire qu'on va utiliser le cheval pour assister le cavalier à éventuellement faire différents apprentissages en utilisant des techniques équestres. On parle, par exemple, de cavaliers qui sont atteints de dyspraxie, là où la coordination devient un problème. Bien, nous, en utilisant le cheval et les techniques équestres, on va pouvoir travailler cette coordination-là et faire en sorte qu'ils vont intégrer des réflexes qu'ils vont pouvoir éventuellement utiliser aussi là, dans leur quotidien.
Oui, c'est ça, parce que la thérapie se passe non seulement en première partie sur le cheval, mais après, ça se répercute dans d'autres sphères de la vie.
Bien évidemment, parce que le cheval est aussi, l'équitation est un sport en tant que tel, donc en utilisant le cheval, on développe une musculature, on développe une force musculaire, et évidemment, de là, au niveau moteur, le travail va se répercuter dans le quotidien, comme n'importe quel sportif, premièrement. Deuxièmement, l'apprentissage que l'on fait, autant éducationnel que au niveau de l'estime de soi, mm-hmm. va perdurer là, dans le temps. Quand on utilise le cheval comme étant un moyen pour stimuler par le plaisir l'apprentissage, c'est certain que ce que l'on retient à cheval va se répercuter dans le quotidien.
Il y a une forme de satisfaction qui se crée et de là découle la confiance en soi.
Exact. Le cheval est un compagnon de travail qui est très sensible à toutes les émotions qui passent puis à tout le courant qui va passer avec son cavalier. C'est une forme aussi de façon d'être parce que le cheval, vous savez, dans la nature, est une proie et il a un leader dans son troupeau. Ce que devient son cavalier, le cavalier devient son leader. Alors, un cavalier doit être un leader à cheval. Il va continuer à être un leader dans la vie s'il transpose la façon d'agir pour amener un autre être, le cheval en l'occurrence, à lui obéir d'une façon ferme mais douce. Alors, c'est quelque chose qui va se transposer aussi dans son quotidien. Alors, c'est une attitude de vie qui va lui permettre d'avoir la tête haute à tous les jours. Hein.
Est-ce que les petits peuvent faire de l'équitation thérapeutique? À partir de quel âge on peut débuter ce type d'approche?
Alors, chez nous, à la Fondation, on débute à 2 ans et demi, surtout, évidemment, avec les enfants qui ont des retards de développement moteur. On travaille sur le cheval dans toutes les positions, donc on peut travailler, par exemple, l'apprentissage de la marche à 4 pattes rampées pour les enfants en travaillant les mains sur la croupe du cheval, parce qu'on reproduit, évidemment, à ce moment-là, le patron de marche à 4 pattes, et tranquillement, on va apprendre aux enfants à marcher, lorsque c'est évidemment possible au cas par cas. On commence donc très tôt. Puis, on a aussi des cavaliers qui sont plus âgés, qui ont subi, par exemple, des accidents cardiovasculaires et qui doivent trouver un moyen de réadapter leur corps au quotidien.
Mm-hmm. 2 ans et demi, ça me semble petit, Diane Plante. Et même à cet âge, l'enfant peut arriver à devenir le leader de son cheval?
Bien, c'est sûr qu'à cet âge-là, la première chose qu'on va lui demander ou qu'on va lui apprendre, c'est premièrement à surmonter la crainte d'être sur un animal beaucoup plus gros que lui, donc à créer un lien d'attachement avec le cheval. Puis il faut comprendre aussi qu'à 2 ans et demi, on ne travaille pas avec un très grand cheval, on va travailler avec des chevaux de plus petite taille. On apprivoise le cheval, mais évidemment, ce climat qui s'installe et les progrès que font les cavaliers sur les chevaux font en sorte qu'avec l'évolution, évidemment, on est appelé à changer de cheval, puis à changer d'objectif aussi, parce que nos objectifs évoluent. Là.
Mm-hmm. Les objectifs qui les fixent, est-ce que le parent, par exemple, lorsqu'on parle d'enfant, arrive avec certains objectifs ou c'est fixé par soit vous, instructrice, ou l'équipe de soignants chez Chevalerie Passion?
À Chevalerie Passion, tout le monde participe à la mise en place des objectifs qui sont recherchés dans le cadre du programme. Donc, l'instructeur d'équitation thérapeutique, avec la participation des intervenants, soit les professionnels de la santé qui sont appelés à travailler avec nous directement là, à l'AFCP, mais également avec les intervenants du milieu. Les parents et les cavaliers nous donnent accès à leurs dossiers médicaux, donc on est en mesure de discuter avec ceux qui les suivent là, de façon plus assidu et souvent depuis plus longtemps que nous. Et évidemment, le cavalier qui est en âge d'exprimer ses besoins, de même que la famille participe à la mise en place des objectifs qu'on va rechercher. Alors, c'est très important pour nous parce que si le cavalier n'y participe pas et qu'on lui impose, évidemment, ça devient moins agréable probablement là, de se lancer dans cette aventure-là.
Oui. Bon, on a parlé de dyspraxie, on a parlé d'accidents cardiovasculaires. L'équitation thérapeutique semble aussi être bien adaptée à des gens qui vivent avec l'autisme.
Oui, tout à fait. Les autistes ont la plupart du temps un besoin de diète sensorielle. Ils ont un besoin de sentir des choses. Vous savez qu'ils réagissent aux cinq sens. Donc, le cheval leur permet ça. En termes de toucher, on a toutes les textures. La crinière est plus rude, le poil est plus fin. On a les odeurs qui viennent, les odeurs de la ferme, mais les odeurs du cheval aussi. Quand on est à cheval, évidemment, l'input que le cheval nous donne devient une diète sensorielle, devient très calmante. Mm-hmm. Alors, le trot, même le galop pour certains, vient répondre à un besoin d'essence. Dépendant évidemment aussi de la sévérité là, de l'autisme comme tel, on peut faire des choses qui sont exceptionnelles parce que justement en raison de cette sensibilité-là et de cette réaction au sens-là, un autiste se transporte facilement, vient créer un lien très, très facilement avec l'animal. Alors, on fait aussi des belles choses au niveau plus sportif, plus loisir avec, avec nos autistes.
Oui. Il y a une forme aussi de réadaptation pour différentes formes de limitation, Diane?
Oui, tout à fait. Alors, on a des cavaliers, par exemple, comme je vous disais, en AVC, qui doivent réapprendre à utiliser un membre, donc par exemple le bras ou la jambe, qui vont avec l'aide de l'animal, qui, comme je vous le disais, a un mouvement similaire à celui de l'humain, travailler la musculature dont ils ont besoin pour tenter de reprendre la forme qu'ils avaient auparavant. Quelqu'un qui est en chaise roulante, par exemple, et qui, avec l'âge, va avoir tendance à s'affaisser vers l'avant parce que c'est malheureusement la situation de ceux qui sont inactifs en chaise roulante. Avec le mouvement du cheval, va être capable de maintenir le tonus musculaire au niveau lombaire qui va lui permettre à tout le moins de rester droit et, on l'espère évidemment, pouvoir accomplir même de façon autonome peut-être quelques mouvements que nous, dans notre quotidien, on trouve bon tout à fait banal, mais qui pour eux leur donnent une autonomie. Là.
Ça prend combien de temps avant de voir tous ces bienfaits-là?
C'est très difficile à dire. Ça dépend vraiment de chacun des cavaliers. Il faut y aller vraiment au rythme du cavalier parce qu'il faut que ça reste plaisant. Il faut que ça reste une activité qui leur apporte du bonheur pour que l'on puisse travailler le reste sans qu'il y ait trop de soucis puis sans que ça soit vraiment un travail, là. Alors, puis c'est la distinction beaucoup aussi qu'on a entre notre forme de thérapie et celle qu'on a en salle. Donc, ça va dépendre du cavalier. C'est certain que on peut pas parler en termes d'heures, de cours ou de séances d'équitation thérapeutique. On parle en plus long terme, surtout pour des cas qui sont plus lourds. Mais il y a, en tout cas, notre expérience démontre qu'il y a des avantages très importants, puis qu'il y a des améliorations notables.
Je trouve ça important que vous rameniez au plaisir, et c'est ce qui se dégage aussi beaucoup. Il y a eu un article sur Chevalerie Passion dans le Soleil, écrit par Jean-François Néron, et ce qu'un papa disait, c'est que c'est comme une thérapie déguisée. Je pense qu'il parlait de son ado. On sait que c'est une période où parfois, bon, il y a des choses qui nous plaisent plus ou moins. On est en questionnement là, lorsqu'on est dans ce passage-là de notre vie. Mais pour un ado, j'imagine que de passer ça sous le ludisme, de ne pas voir nécessairement le cheval comme un thérapeute, mais vraiment comme un partenaire, là, puis de ramener au plaisir, ben, ça peut aider et être assez efficient dans la thérapie.
Tout à fait. Je pense que c'est le secret, le premier secret de cette thérapie-là. On s'efforce chez nous de finir une séance de thérapie toujours sur une bonne note. Alors, bien sûr, comme dans toutes les autres sphères de la thérapie, on a une petite heure qui nous est allouée par cavalier, mais parfois ça va déborder parce qu'il faut terminer une séance sur une bonne note, quelle qu'elle soit, pour créer le plaisir de revenir.
Ouais.
Et pour ce faire, bien, nos séances sont aussi divisées en quelques étapes, dont la dernière étant la phase de remerciement à notre cheval et ce moment où le cavalier peut lui offrir une gâterie et être près de lui. Donc, pouvoir le toucher, pouvoir rire parce qu'on va faire une petite grimace. Alors, il y a plein de... Donc, on finit toujours sur cette belle note-là qui lui permet d'avoir le goût de revenir.
Diane, comment sont choisis les chevaux chez Chevalerie Passion? Parce que j'imagine que ça dépend du tempérament. C'est pas n'importe quel cheval qui peut être choisi pour faire de l'équitation thérapeutique.
Vous avez tout à fait raison. Le premier critère, c'est d'avoir un cheval qui aime l'humain, je vous dirais. Donc, qui a une tendance au jeu, qui n'a pas peur de l'humain, donc qui a une bonne tête. Alors, il y a des races qui sont plus faciles, mais quelle que soit la race, je pense que ce critère-là est le premier qui nous guide. Ensuite, évidemment, il y a une question de taille. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on travaille avec des tout-petits et avec des adultes également. Donc, on a besoin de chevaux chez nous qui sont de taille différente pour pouvoir supporter le poids, puis aussi pour pouvoir éventuellement ne pas créer une barrière juste par leur apparence qui est quand même imposante. Et je vous dirais que le gros travail est un travail qui relève de nos entraîneurs, de nos instructeurs d'équitation thérapeutique à la désensibilisation de nos chevaux. Alors, un cheval qui arrive chez nous, bien qu'il ait une bonne tête, qu'il soit joueur et qu'il ait toutes les autres qualités, doit être désensibilisé à une monte qui n'est pas régulière, à une monte qui est près d'une rampe d'accès au jeu. On joue avec des ballons, on joue avec des sons. Donc, nos chevaux, parfois, ne sont pas au travail avant même une année de désensibilisation.
Il y a un processus à suivre.
Tout à fait.
Et de l'autre côté de la médaille, il y a ces thérapeutes, ces instructeurs qui travaillent dans votre équipe qui doivent être à l'aise de travailler avec des chevaux.
Oui, effectivement. Nos instructeurs, puis ça aussi, c'est peut-être une donnée intéressante pour vos auditeurs qui cherchent un centre d'équitation thérapeutique. Alors, nos instructeurs chez nous sont formés suivant le programme de l'Association canadienne d'équitation thérapeutique qui impose une gestion de risque qui est quand même assez serrée. Alors ça, c'est la formation de base. Et les professionnels de la santé qui travaillent avec nous sont également formés par l'American Hippotherapy Association, alors l'Association d'hippothérapie américaine, qui offre le programme aux professionnels. On a eu la chance, comme instructeurs, nous, de participer également à ce programme-là. Et c'est très important parce que c'est ce qui permet aux instructeurs et aux professionnels de la santé de choisir les bons chevaux pour les bons cavaliers, parce qu'il y a un pairage, évidemment, idéal à faire, notamment quand on parle de réadaptation physique, parce que on doit faire le nécessaire pour ne pas amplifier une problématique physique en choisissant, par exemple, un cheval qui a un mouvement qui contrevient à ça.
En terminant, Diane, est-ce que les physiatres ou les pédopsychiatres ont tendance à référer en équitation thérapeutique? Comment vos clients arrivent chez vous?
Mais en fait, nos clients sont référencés par les CIS maintenant, donc les centres de réadaptation en déficience physique et en déficience intellectuelle qui sont devenus les CIS. Et oui, je vous dirais que de plus en plus, cette forme de thérapie-là prend sa place auprès de nos professionnels de la santé. Ça se fait évidemment à petits pas et puis c'est pas mauvais ainsi parce que ça demeure quand même une thérapie qui est assez jeune au Québec quand on parle, je dirais, d'une quarantaine d'années. C'est plus à la mode dans les pays d'Europe ou aux États-Unis où le climat a favorisé ça aussi beaucoup. Mais je vous dirais que l'ouverture est là et puis l'ouverture et la collaboration aussi. Alors, on travaille là, de pair avec le milieu. Et d'ailleurs, chez nous, il n'y a pas un cavalier qui est mis à cheval sans qu'on ait eu l'autorisation médicale de le faire. Alors, là, ça nous met en lien avec le monde des professionnels de la santé. Là.
Ça se fait au trot, mais c'est une bonne chose. Diane Plante, je le rappelle, vous êtes instructrice et directrice générale de la Fondation Chevalerie Passion, fondationchevaleriepassion.org. Merci beaucoup, ça a été un plaisir de vous parler.
Merci, c'est un plaisir pour moi également.
Au revoir.
Bonne fin de journée, au revoir.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevois.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Nordine Gachier, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous joint du côté de la France. Il est 20h20 à peu près chez vous, c'est bien ça?
Absolument.
On se prépare au dodo. Vous nous dites que votre fils n'est pas couché encore.
Eh oui, il va peut-être se mettre à faire du bruit à chouiner, ça sera la surprise, on verra.
Nordine, vous êtes directeur créatif et technique, cofondateur chez Dowino. On parle aujourd'hui de ce jeu qui s'appelle Glucosor. Ce que je veux dire d'entrée de jeu, Nordine, c'est que de vivre avec une maladie chronique, c'est un défi pour tout le monde. Pour un enfant, ça peut l'être davantage, en ce sens que de comprendre les paramètres, ça peut devenir un peu compliqué. Glucosor, il aide un petit peu à la compréhension de la maladie chez les enfants.
Oui, absolument. Oui, oui. Il aide à la compréhension parce que, justement, il a pour objet de décomplexer, enfin, de dédramatiser la maladie. En fait, en la présentant sous le regard en fait de la vie quotidienne d'un petit dinosaure. et du coup, en fait, on a créé un univers très apaisant, très attractif en fait pour l'enfant, pour qu'il ait envie de s'y plonger.
Ouais.
Et on a créé un personnage qui est attachant également, qui est ce petit glucosaure, qui est donc un petit dinosaure diabétique.
Ouais.
Voilà.
Et dont on doit s'occuper de Glucosor parce qu'il vit avec le diabète, donc il y a certains paramètres à respecter, à s'occuper. De quelle façon l'enfant peut s'occuper de Glucosor?
Alors, déjà, donc nous, on a pensé très orienté pet game. Hein, c'est un peu le nouveau genre des Tamagotchi. Enfin, c'est un Tamagotchi d'un nouveau genre qui permet,
oui.
De donner envie à l'enfant de s'occuper régulièrement de sa bête pour qu'elle se sente toujours bien.
Oui.
Et du coup, sa petite créature a besoin de câlin, a besoin d'hygiène. Donc, on peut venir lui faire un petit câlin, on peut lui faire prendre une douche. Et on peut surtout lui donner à manger. Et c'est ce qui est très important, faire de l'insuline. Lui administrer de l'insuline. Et donc, en fait, comme n'importe quel être vivant, voilà, quand il n'a pas mangé depuis un moment, en fait, il a faim. Donc, il faut lui donner à manger. Et l'enfant lui explique simplement que, quelquefois, ce qu'il va lui donner contient des glucides. Et donc, ces glucides vont jouer sur sa glycémie, en fait, à l'enfant. Et tout comme avec la maladie, il va falloir, avant de manger, donc faire une injection d'insuline, un bolus à son dinosaure. Avec la bonne dose en fonction de ce qu'on va manger.
Mmh.
Tout est expliqué en fait dans le jeu par l'intermédiaire de métaphores comme ça, mais surtout d'un carnet de secrets qui va inviter en fait l'enfant à faire diverses actions pour gagner de l'argent, puisque dans ce jeu, plus sa bête se sent bien, et plus il va gagner des pièces d'or en fait. Hein. C'est un peu un symbole pour nous quelque chose qui fait rêver un peu les enfants.
Ouais.
Cette monnaie virtuelle, avec ses pièces d'or, il va pouvoir acheter des activités pour amuser son petit compagnon. Et donc, on a travaillé des animations très soignées autour de ces petites animations pour qu'il ait envie, en fait, de récolter suffisamment d'argent pour s'acheter ces petites activités et voir ces petites animations sur son monde. Donc, voilà, il y a de la balançoire, il y a des jeux de force, il y a un jacuzzi, il y a diverses choses. Et plus on avance dans la compréhension de sa maladie, puis on va en fait gagner des pièces. Et donc le carnet de secrets distille en fait des informations en fait pédagogiques qui sont un petit peu cachées, par exemple, qui sont dissimulées. Par exemple, on va dire tu peux gagner 100 pièces d'or en donnant un déjeuner équilibré à ton glucosor. Et du coup, on va pouvoir lui expliquer à l'enfant rapidement qu'est-ce qui compose un déjeuner équilibré. Et du coup, il va pouvoir s'amuser à expérimenter pour récupérer l'or, en fait. Et il va avoir comme ça tout un tas d'actions à faire, hein, l'insuline au bon moment, le bon dosage au bon moment.
L'activité physique aussi?
De l'activité physique, ouais. Exactement, qui va jouer aussi sur sa glycémie, légèrement. Et puis voilà, il va devoir, en fonction des réactions de son glucosor, en fait, prendre les bonnes attitudes et soit lui donner de l'insuline, soit lui donner à manger, soit simplement l'occuper ou le câliner ou le laver ou le mettre au lit s'il est fatigué.
Nordine, voilà. Cette application mobile, c'est une initiative de Dino Santé, de l'association à l'aide aux jeunes diabétiques également. Il y a tout l'aspect d'aider, d'accompagner l'enfant à travers sa maladie, mais d'accompagner son parent aussi.
Oui, absolument, oui. Parce que du coup, justement, c'est aussi par l'intermédiaire de ce jeu, on pense que ça va aussi aider les parents à, non seulement à comprendre aussi mieux la maladie, mais aussi à mieux l'expliquer autour d'une application conviviale, en fait, à leur enfant. Donc, l'inviter, moi, je pense que les parents peuvent, par exemple, inviter leurs enfants ne soir avant de coucher ou à n'importe quel moment, mais à un moment propice, quoi, expliquer un petit peu, à faire une petite partie, à dire tiens, ben, voyons voir un petit peu ton dinosaure, comment il va aujourd'hui. Ah ben tiens, il est peut-être, on dirait qu'il a faim, qu'est-ce que tu vas lui donner à manger? Enfin voilà, on va pouvoir rentrer un peu dans cette discussion et jouer avec, avec son enfant à ce jeu pour l'aider à comprendre les mécanismes sans même vraiment qu'il s'en rende compte.
Ouais.
Et on espère comme ça, par ce biais très, enfin, par le jeu. Et le fait d'avoir introduit ces contenus pédagogiques de manière subtile et surtout d'en avoir fait des mécaniques qui récompensent l'enfant quand il se les approprie et qu'il les maîtrise, qu'il les récompense dans le jeu, on pense que ça va vraiment aider les parents et c'est déjà le cas a priori d'après les témoignages qu'on a pu avoir. En tout cas, oui, ça aide les parents à mieux expliquer la maladie à leurs enfants et d'une manière surtout moins dramatique, plus ludique. Et ça permet de prendre peut-être un peu de recul tout en étant sur cette maladie et tout en étant quand même relativement précis.
Voilà. Ouais, d'être au courant aussi. Et j'imagine que Glucosaur peut même plaire au grand frère, à la petite sœur, donc à la fratrie, qui a des questions sur la maladie de son frère, de sa sœur et qui veut comprendre.
Oui, tout à fait. C'est comme ça que chez Domino, on pense nos applications. On essaie de faire en sorte que c'est des serious games, hein, donc ils ont toujours une portée pédagogique ou informative importante. Mais on essaie toujours de faire en sorte que le côté jeu soit suffisamment attractif et suffisamment bien fait et bien pensé pour que, même si on ne s'intéresse pas à l'aspect pédagogique, on va quand même avoir envie de jouer à ce jeu.
On va s'amuser, voilà.
Il y a des récompenses, ça a l'air marrant, ça a l'air cool. Et du coup, ça va attirer effectivement beaucoup d'enfants et même des non-diabétiques.
Ouais.
Moi, j'ai eu l'exemple tout récemment de la fille d'un de mes amis, en fait, qui m'a dit, qui joue beaucoup à ce jeu parce qu'elle adore son petit dinosaure, elle n'est pas diabétique. Mais du coup, elle a enfin compris la maladie, en fait, d'une de ses camarades de classe. Qui
oui, et ça, c'était assez précieux.
Elle a compris, en fait. Du coup, elle a dit, ah, mais oui, c'est comme Glucosaur. Ah oui, du coup, tu vas manger, il faut que tu fasses attention à ce que tu vas manger comme
Nordine. Nordine, je dois vous arrêter parce qu'il reste plus de temps, il reste 30 secondes. Glucosaur, est-ce qu'on peut se le procurer au Canada rapidement?
Je pense que oui, a priori.
On fera nos recherches en ce sens. Nordine Gachy, voilà. Directeur créatif et technique, cofondateur chez Dowino. Merci beaucoup, c'est le temps d'aller coucher votre fils maintenant. Au revoir.
Merci beaucoup, au revoir.
Merci Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde Marianne Paquette. Au micro, rendez-vous demain, 14h. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.